Chapitre 15. Les deux hommes, des brutes, portaient des holsters d'épaule conçus pour recevoir des pistolets munis de silencieux. Jane, qui tenait le Heckler & Koch à la main, n'eut pas besoin de dégainer. Sans même s'en rendre compte, elle leva les bras et serra les deux poings autour de la crosse du pistolet. Aucun des deux hommes ne réagit en la voyant. Elle aurait tout aussi bien pu être transparente. Ils s'approchèrent de la morte qui gisait tel un mauvais rêve sur sa couche en inox.
« Il faut attendre la nuit pour passer à la suite », déclara le plus imposant des deux.
« Il fait nuit depuis plus de 2 heures », remarqua l'autre.
« Il faut attendre la nuit à cause de la fumée.
Personne ne la verra. Le système ne produit quasiment pas de fumée. »
La présence du corps, sa réalité factuelle, ne les affectait nullement.
« C'est un système fiable, mais il produit tout de même de la fumée. »«
C'est vrai que c'est un très bon système. De toute façon, il fait nuit. »
Jane crut pendant quelques instants qu'il jouait avec ses nerfs, qu'ils allaient brusquement se retourner et la menacer de leur arme. Soudain, lui revint l'avertissement d'Overton. Ils ne voient pas les membres parce qu'ils sont programmés. Ils n'étaient pas aveugles au sens premier du terme. Leur nerf optique transmettait son image à leur cerveau au même titre que la morte sur sa couchette. Mais un filtre empêchait leurs cellules grises d'interpréter ce qu'ils percevaient. Parce qu'elle avait utilisé le code et le mot de passe d'Overton, les gardes étaient convaincus que la villa n'abritait que les filles et leurs visiteurs. Les membres d'Aspasie, en refusant que leur visage puisse être associé à ce lieu, avait créé une faille dans son système de sécurité. Une faille grâce à laquelle Jane devait avoir la vie sauve. Tout en sachant que la cécité des deux hommes était programmée, elle préféra se méfier et s'éloigna à reculons, l'arme braquée sur eux, de peur que la magie ne cesse d'opérer à l'instant où elle franchirait le seuil de la pièce. Le plus grand des deux hommes, qui frisait les 2 mètres, se rendit au crématorium pendant que son collègue regardait fixement la morte nue sur la table en inox. Il aurait suffi qu'il lève la tête pour voir Jane. Il fronça brusquement les sourcils et balaya la pièce des yeux. Peut-être était-ce l'effet de son imagination, mais elle eut le sentiment que son regard s'arrêtait brièvement sur l'endroit où elle se trouvait.
Il pencha la tête de côté, perplexe.
Jane retint son souffle. S'il était programmé pour ne pas la voir, il ne pouvait pas l'entendre non plus, mais elle cessa machinalement de respirer. Il avait des traits épais, on l'aurait dit taillés dans un bloc et non nés des amours d'un homme et d'une femme. Sous son front proéminent, ses yeux observaient le monde d'un air soupçonneux. Il s'intéressa enfin à la morte, sans émotion aucune. Son collègue revint au même moment en poussant devant lui une civière à roulettes. Il rangea celle-ci le long de la table et regarda longuement la blonde.
« La numéro 4 »
dit-il.
« La numéro 4 » approuva son collègue.
« Il faudra nettoyer sa suite.
La préparer pour la numéro 4 suivante. »
Dans le monde des informaticiens, il existe un terme pour décrire ceux qui croient échapper au radar de la société sans vraiment y parvenir. On dit que ce sont des idiots. Seule une petite fraction de ceux-là, à commencer par tous ceux qui se préparent pour la fin du monde, échappent réellement au regard de la société. On dit des rares qui y réussissent, dont Jane faisait partie, qu'ils se terrent dans un recoin silencieux. Elle se terrait dans un recoin silencieux depuis 2 mois déjà. Et voilà que son recoin rétrécissait encore, puisqu'elle était indétectable aussi bien par les technologies modernes que par les 5 sens de ses agents de sécurité, lui laissant toute liberté de mouvement.
« Brûlons-la !»
décida le plus grand des deux.
« Brûlons-la !»
approuva l'autre. Ils soulevèrent la morte et la posèrent sur le lit roulant, avec autant de respect que s'ils avaient transporté un sac poubelle. C'était une barbarie de trop, un affront inexcusable. Jane les aurait volontiers tués. D'un autre côté,
Ils faisaient eux-mêmes partie des victimes. Rien ne prouvait qu'ils se soient comportés comme des êtres grossiers et cruels avant de recevoir des implants cérébraux.
Jane n'avait pas de preuves suffisantes pour les condamner à mort. De toute façon, ils étaient déjà réduits à l'état de mort-vivant.
Jane battit en retraite en voyant les deux hommes manœuvrer le lit roulant et le pousser jusqu'au four crématoire. Elle remonta le couloir d'un pas rapide en direction de l'entrée principale. En passant, elle jeta un regard rapide en direction des statues en marbre de Vénus et d'Aphrodite dans leur niche. Peut-être était-ce dû à l'éclairage, ou bien l'humeur sombre de Jane affectait-elle sa perception des objets. Toujours est-il que les déesses glorieuses de tout à l'heure avaient laissé place à des êtres terribles présidant aux sacrifices qui voyaient autrefois les Aztèques arracher vivant le cœur de jeunes enfants. Une fois dans l'entrée, elle composa le numéro de membre et le mot de passe d'Overton sur un clavier, et la porte s'ouvrit après quelques secondes qui lui parurent une éternité. Même la lune lui semblait menaçante, suspendue dans le ciel tel un œuf de dragon prêt à éclore. Jane s'attendait au pire lorsqu'elle arriva au garage, mais le volet roulant du box où était garée la Bentley se releva sans problème, une fois entrées les données nécessaires sur le boîtier. Elle roulait sur l'allée bordée de palmiers, lorsqu'elle aperçut les phares d'une voiture qui venait en sens inverse. Elle se tint prête à accélérer et forcer le passage si l'auto tentait de lui bloquer la route, mais elle croisa sans incident une Maserati aux vitres teintées. Le double portail s'ouvrit automatiquement à son approche et elle s'empressa de quitter la propriété. Les rues dans lesquelles elle conduisait la Bentley traversaient un monde qui lui semblait infiniment plus précieux qu'à l'aller. Depuis qu'elle avait goûté à Aspasie, elle prenait la mesure du péril qui menaçait la planète sous le regard aveugle des étoiles.